Seigneur, je veux te demander ce matin de nous bénir. Merci parce que tu me donnes cette tâche. Cette tâche de parler de ce sujet que tu m'as mis à cœur. Ma bouche est à ta disposition. Utilise-moi. Amen. Je voudrais vous parler ce matin d'une maladie grave. C'est une maladie qui touche tout le monde et on n'en parle quasiment jamais. Elle peut donner des insomnies, elle peut créer des dysfonctionnements biologiques assez importants, comme l'hypertension, les migraines. Elle a déjà causé la mort de beaucoup d'hommes et de femmes et laisse encore aujourd'hui un nombre incalculable de personnes dans une situation de désespoir et de détresse intérieure. Et ça n'affecte pas que la personne, mais ça impacte aussi son entourage. Pas mal d'études ont été menées, notamment par le professeur Carsten Roach, pour analyser l'impact de cette maladie dans nos vies, pour voir quels étaient les dégâts que ça pouvait faire. Puis il recommande tout un tas de théories pour se libérer de ce poison de l'amertume. Mais la seule thérapie qui soit vraiment efficace, elle se trouve dans la Bible. Alors vous l'avez sans doute compris, je veux parler ce matin de la rancune, de cette maladie de la rancune. L'incapacité à pardonner. Le pardon, c'est un sujet qu'on a tendance à laisser de côté dans nos discussions et on pense qu'on l'a globalement bien compris, mais est-ce qu'on le met réellement en pratique dans nos vies? Alors ce matin, je m'adresse principalement à des chrétiens, donc on ne va pas s'attarder tant sur le pardon de Dieu envers nous, et notre péché, mais sur le pardon des uns envers les autres. Le thème du pardon, c'est un sujet qui est très vaste, il faudrait des heures pour en parler de façon très consistante, et ce matin on n'a qu'une vingtaine de minutes, donc je vais m'attarder sur certains points clés seulement. Puis pour ceux qui pourraient être déçus, n'hésitez pas à venir discuter avec les anciens, ou avec moi, on pourra aussi échanger sur tout un tas d'autres versets qui parlent de ce thème du pardon. Pour ceux qui étaient là il y a 3 semaines environ, on était au culte de la pastorale du Pays de Gex et on a entendu une exhortation sur la réconciliation à la croix. Et tous ensemble, on a récité cette prière du Notre Père, la prière sacerdotale, qu'on peut trouver dans Matthieu 6, versets 9 à 14. Et pour introduire ce moment, je voudrais qu'on puisse de nouveau tous ensemble réciter cette prière sacerdotale. Alors, ceux qui ont besoin d'aide, prenez vos Bibles dans Matthieu 6, versets 9 à 14. Et pour les autres, si vous la connaissez, on peut la réciter ensemble maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je relis le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je trouve surprenant que tout de suite après cet exemple de prière, Jésus enchaîne immédiatement au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Par rapport à l'ensemble de cette prière sacerdotale, le seul point que Jésus juge bon de réexpliquer, c'est cette idée du pardon. C'est la seule recommandation du Notre Père qui concerne les relations interpersonnelles. Comme si finalement, la vie sociale entière dépendait de la pratique du pardon. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse. Attention, parce qu'il y a certains théologiens qui utilisent ce verset 14 pour appuyer l'idée qu'on peut perdre le salut si on ne pardonne pas. Et je suis convaincu que c'est une erreur. Il y a énormément de versets qui parlent de l'assurance du salut. Et je voudrais simplement en partager un qui est affiché là. Je le prends aussi un petit peu avant. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je referme la parenthèse. Et on revient à notre verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et Jésus ici ne parle pas du pardon juridique, c'est-à-dire lié au salut, afin que personne ne se glorifie. Mais il parle du pardon paternel, celui qui conditionne notre communion avec le Père en tant qu'enfant. Si en tant que chrétien, on n'est pas disposé à pardonner ceux qui nous ont offensés, peu importe que l'offense soit grosse ou petite, comment est-ce qu'on peut prétendre à vivre en communion avec lui, qui nous a pardonné cette dette immense? Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, je reformule. Dans ces versets-là, on ne parle pas du pardon juridique lié au salut, mais du pardon paternel, celui qui rétablit la relation avec le Père. Et souvent, on vient le dimanche matin à l'église, comme tout à l'heure, où on a pu louer le Seigneur au travers de chants, et où on lui a apporté les offrandes de notre cœur, et on a ce sentiment d'être en communion avec lui, d'être connecté avec Dieu. Mais Dieu nous dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui. Et ensuite, on pourra passer un bon moment ensemble. Matthieu 5, versets 23 et 24. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Si dans votre cœur, vous êtes rempli d'amertume et que vous croyez être en communion avec Dieu, vous vous plantez complètement, puisque la rancune endommage, elle détruit notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on veut se laisser transformer par Dieu ce matin? Est-ce qu'on veut ressembler à Jésus? Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et Colossiens 3, 13, paraphrase également, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. » On ne ressemblera jamais plus à Dieu que lorsqu'on pardonne. Finalement, le pardon, c'est l'acte le plus divin qu'un chrétien puisse faire. Pourquoi? Mais simplement parce que notre nature humaine est incapable de pardonner sans la puissance du Saint-Esprit. En tant que chrétien, ce pardon enlève le voile qu'il peut y avoir entre Dieu et nous. Il enlève ce voile d'amertume et de rancœur qui nous vole la joie qu'on a en Jésus-Christ. Ce pardon rétablit la paix. Frère André, pour ceux qui le connaissent, c'est un auteur assez connu qui a écrit un certain nombre d'ouvrages et qui a été missionnaire dans certains pays et qui a porté la Bible dans ces pays difficiles. On parle de sa visite à une amie, à la fois chrétienne et membre de l'Organisation de libération de la Palestine. Il a été profondément ému par ce qu'elle lui a dit. Elle lui raconte son engagement quotidien dans la foi, dans ce contexte très difficile qu'elle vivait. Et elle lui dit que ce qui est le plus dur pour elle, c'est de pardonner à ses ennemis. Comment pardonner à ceux qui veulent la tuer, elle et sa famille? Et elle lui dit, « Je sais que je dois pardonner, et je tombe face contre terre devant Dieu, et j'y consacre tellement d'efforts et de sueur, et je veux dire, « Seigneur, je pardonne à mes ennemis, mais je me les représente, et je vois ce qu'ils font jour après jour, je vois les cadavres, les blessés, le sang, j'essaie de pardonner, mais j'y arrive pas. Alors je prie, « Seigneur, tu dois m'aider. » Parce que j'y arrive pas. Et Dieu est certainement beaucoup plus ému par les luttes de cette femme dans la prière que par toutes les fois où on a pu faire cette prière du bout des lèvres, histoire de se donner bonne conscience. Seigneur, bénis mes amis et mes ennemis. Amen. Parce qu'elle, elle prend le sujet du pardon très au sérieux. Et ça, c'est une preuve de grande maturité spirituelle. Et des fois, on a l'impression qu'on pourrait presque enlever cette partie du pardon dans notre Père en se disant « Mais bien sûr que je pardonne à mes ennemis. » Et puis on réajuste notre auréole. Tout en continuant à entretenir nos rancunes mesquines et à nous accrocher aux souvenirs d'insultes et d'offenses vieilles de plusieurs années. On ne prend pas le sujet du pardon suffisamment sérieux. On se dit, moi, mais je suis tout à fait prêt à pardonner, il n'y a aucun souci. La personne n'a qu'à venir me demander pardon. Mais le pardon, ce n'est pas juste un acte isolé qu'on fait une fois de temps en temps. C'est un mode de fonctionnement en tant que créature graciée. Luc, chapitre 6, versets 27 et 28. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Alors dans ce cas-là, on vient de parler des ennemis. Mais Dieu nous dit aussi que c'est dans l'Église, et pas seulement ici à Préfessin, mais dans le corps de Christ qu'on doit pardonner. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Le pardon, c'est une composante vitale à la vie d'Église. Parce que l'Église, même la meilleure qui soit, on est une collection de pécheurs. Et il est important qu'on soit capable de gérer ses offenses avec une attitude de pardon. Parce que finalement, ce qui détruit la relation, ce n'est pas l'offense, mais c'est l'incapacité à pardonner. Les offenses viendront, le Seigneur lui-même nous a mis en garde. Les offenses viendront. Ça fait partie de la vie quand on vit dans un monde déchu ou dans une église où on n'est pas encore à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Et la manière dont on va gérer ces offenses va déterminer la nature de notre relation. La nature de notre relation avec nos amis, avec notre famille, dans le mariage, et évidemment dans l'église aussi. Et cette incapacité à pardonner ne détruit pas seulement la relation, mais elle détruit la personne qui ne pardonne pas. Elle est autodestructrice. Donc faisons-nous nous-mêmes une faveur et pardonnons. Quand on est offensé, ce pardon, c'est un obstacle à nos prières. C'est un obstacle à la bénédiction de Dieu dans nos vies. Il nous emprisonne dans le passé, il déforme nos souvenirs, il déforme la réalité. Et on a cette colère. Et nos conversations deviennent un forum où on critique, où on médit, où on diffame même l'autre personne. Et on laisse l'amertume nous infecter. Et on vit dans cette tristesse intérieure. Et il y a ce besoin de vengeance qui est là, insatisfait. Alors qu'à l'inverse, le pardon, lui, va nous libérer de tous ces dangers. Il va nous introduire dans une intimité nouvelle avec le Seigneur. Et il transforme nos prières et les rend efficaces et va libérer l'action de Dieu dans notre situation. On sera en paix avec Dieu et au fond de notre cœur. Il va retirer ce venin de l'amertume qui nous détruisait. Alors certains diront, moi, non, la blessure est trop grosse, je ne peux pas pardonner. Mais la première question, ce n'est pas de pouvoir, c'est de vouloir. Tant qu'on résiste au commandement de Dieu de pardonner, on résiste à Dieu et il nous résiste. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le pardon, mes amis, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est un acte de notre volonté. Alors à nous le vouloir, à Dieu le pouvoir. Voici un verset qui illustre également ça. Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et si vous ne pouvez pas pardonner par amour pour la personne, faites-le simplement parce que on aime Dieu, par amour pour lui, parce qu'il le demande. Et peut-être aussi réalisons qu'il y a un problème quelque part et qu'il serait important de méditer, de relire ces versets-là, notamment Jean 13, verset 35, « À tous ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Là, je vais paraphraser la parabole du serviteur impitoyable que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Vous avez déjà lu ces passages-là ou vous avez entendu à l'école du dimanche. Tout commence par une question de Pierre à Jésus. Combien de fois est-ce que je devrais pardonner à mon frère s'il me fait une crasse ? Et là, Jésus lui dit qu'il faut pardonner, mais sans compter. Et puis il raconte cette parabole suivante. Il y a un roi à l'époque qui veut faire un topo de ses comptes avec tous ceux qui lui doivent de l'argent. Alors il passe les uns les autres. Et puis vient le tour d'un haut fonctionnaire qui lui doit une somme monstrueuse, 10 000 talents. Alors au cas où on n'est pas familier avec 10 000 talents, selon certaines échelles, ça représente aujourd'hui en euros avec l'inflation 2 milliards 400 millions d'euros. Pour info, Néron avait une fortune qui était estimée à 900 talents, soit 216 millions d'euros. Donc là, on se rend compte de deux choses. Déjà, ce haut fonctionnaire, il brassait des sommes colossales. Et de deux, on se doute bien que ce n'était pas pour son utilisation personnelle. Et le roi lui demande de rembourser immédiatement. Sachant que cette somme, on vient de le voir, était irremboursable, le haut fonctionnaire se jette aux pieds du roi et le supplie de ne pas l'envoyer en prison, lui et sa famille, pour rembourser cette dette. Et le roi a pitié de son employé et lui efface sa dette. Et 5 minutes après que le haut fonctionnaire ait quitté la présence du roi, il se dirige probablement vers son bureau, il croise dans les couloirs un collègue de travail qui lui devait 4000 euros, soit 600 000 fois moins que la dette qui vient tout juste de lui être effacée. Et là, il le saisit à la gorge et lui dit « Paye ce que tu me dois !» Et de la même manière que ce haut fonctionnaire s'est jeté au pied du roi, ce collègue de travail se jette au pied du fonctionnaire et lui dit « Prends pitié de moi !» Mais le haut fonctionnaire reste inflexible et le fait jeter en prison. Et là, toutes les personnes qui étaient autour et qui ont vu la scène depuis le début vont tout raconter au roi. Et le roi le convoque et lui dit « Je t'avais remis ta dette en entier. Ne devais-tu pas toi aussi en faire autant et lui remettre sa dette en entier ?» Et dans sa colère, il le livra au bourreau qu'il jetait en prison. Et Jésus rajoute « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » On réalise ici finalement que ce haut fonctionnaire n'avait pas du tout intégré cette notion du pardon qui transforme. Il profite du pardon reçu pour la remise de sa dette, évidemment, parce que ça l'arrange bien. Mais il n'a pas compris, il ne s'est pas laissé transformer par ce pardon reçu. Il le touche du bout du doigt, mais il n'a pas intégré. Et c'est ça qui va se passer si on ne se laisse pas transformer par le pardon qu'on a reçu à la croix. On va être livré au tourment, on va être prisonnier de ses pensées et de ses sentiments qu'on choisit finalement de ne pas abandonner. Et petit à petit, ils vont nous détruire. Et au départ, ces murs qu'on dresse entre la personne qui nous a offensés et nous, qui au début nous assurent une certaine forme de protection, en fait, on est en train de s'édifier, de se dresser notre propre prison autour de nous. Et quand on est en colère contre le péché de l'autre, est-ce qu'on est autant en colère contre son propre péché ? Est-ce qu'on est si orgueilleux qu'on voit seulement le péché de l'autre et pas son propre péché ? Quiconque nous a offensé Dieu 600 000 fois plus, pour reprendre cette même échelle tout à l'heure. Alors c'est vrai que ça n'enlève rien au fait qu'on a pu être profondément offensé, peut-être qu'on a une cicatrice pour la vie, peut-être que notre réputation a terriblement souffert ou qu'on a perdu un être cher. Mais si Dieu, qui a été bien plus offensé par nos péchés que nous, et qui est infiniment plus saint que nous, pardonne, comment est-ce que nous, on ne peut pas pardonner ? Est-ce que nous offenser est plus sérieux qu'offenser Dieu ? Est-ce que nos valeurs sont plus élevées que les siennes ? Est-ce qu'on est plus saint que lui ? Peut-être que vous avez souffert une injustice, probablement même par quelqu'un que vous aimez, et vous êtes en colère, mais vraiment en colère. Des efforts de réconciliation biblique ont été faits, et ça a été peut-être, ou peut-être pas très fructueux, mais en tout cas vous êtes là, insatisfait. Peut-être que la personne qui vous a offensé essaie de se repentir, mais en tout cas non, ça n'a pas fonctionné. Et vous êtes là toujours avec cette colère, vous n'arrivez pas à la laisser partir. Peut-être même que vous avez été marié à cette personne. Ça pourrait être votre père, votre ancien employeur, un ami qui vous a profondément blessé ou qui vous a trahi. et vous avez cette amertume en vous. Et vous y repensez chaque soir. Et ça vous ronge. Et vous savez que ça vous fait du mal seulement à vous et à personne d'autre. Et chaque fois qu'on prononce le nom de cette personne dans une discussion, vous êtes là et vous serrez les dents. Mais la raison principale pour laquelle on n'arrive pas à enlever cette amertume, mais c'est simplement parce que c'est pas juste. Justice n'a pas été faite. Il n'y a rien de proportionnel entre ce que moi je peux vivre et ce que cette personne vit. C'est pas juste. Et on se le répète encore et encore. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Et mortel. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reconnaît. Je ne peux rien faire pour m'en sortir, cette amertume est trop profonde. Et je n'arrive pas à m'en défaire. Ça me détruit, alors que cette personne vit joyeusement de son côté. 2, on prie. Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai cette rage en moi et j'arrive pas à m'en délivrer. J'ai besoin que tu l'enlèves. Et 3, ce Dieu de justice, tout à l'heure on a entendu qu'il y a cette justice qui est là, insatisfaite, qu'on ressent cette injustice. Mais on a un Dieu de justice. Et ce Dieu de justice, il a une promesse pour nous. Et cette promesse, elle se trouve dans Romains 12, verset 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » C'est une promesse. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Justice n'est peut-être pas faite maintenant, mais elle le sera un jour. Alors si vous êtes en proie à l'amertume, cette promesse, elle est faite pour vous. Ce qu'elle dit en substance, c'est que Dieu va enlever ce besoin irrépressible de vengeance ou de justice personnelle. Il va se passer deux choses. Soit la personne va en enfer, et tu n'as pas besoin de rajouter à sa punition. Soit la personne est pardonnée, son péché a été payé à la croix, et tu déshonores le Seigneur si toi aussi tu ne partages pas ce pardon. En fait, le cœur du problème, c'est un refus d'offrir ce que Dieu nous a déjà donné à la croix. Dieu veut que nous reconnaissions la gravité de notre péché pour que nous saisissions la grandeur de sa miséricorde, qui nous a manifesté en pardonnant nos péchés à la lumière du pardon accordé par grâce, sans aucun mérite de notre part. Et quand on réalise ça, on n'a aucune raison valable de ne pas pardonner. Quelle que soit la gravité de l'offense ou de la douleur subie. Toutes ces offenses qu'on subit, et ça c'est une bonne nouvelle, sont les épreuves qui nous transforment à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Parce que finalement, si on répond à l'offense par la vengeance, on est littéralement en train de stopper le travail le plus merveilleux que Dieu veut faire en nous, nous transformer à son image. Et quelque part, on doit être offensé. Notre orgueil en a besoin, notre amour-propre en a besoin, notre indépendance en a besoin. Toutes ces insultes, ces critiques, ces injustices, ces offenses contre nous, on doit apprendre, plus qu'à les accepter, mais à nous en réjouir. Parce qu'elles vont nous transformer, au travers d'elles, on va être transformé à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. « Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, nous dit Paul. » La puissance de Dieu agit au travers de nos faiblesses. Donc, soyons beaucoup moins concernés par nos douleurs personnelles que par notre sainteté, que par notre relation avec Dieu. Mais soyons beaucoup plus concernés par les fruits de sainteté que peuvent produire ces offenses au travers du pardon. Recherchons le pardon par amour pour Dieu, pour notre bien personnel, mais aussi pour l'unité dans le corps de Christ. Et je voudrais maintenant introduire ce moment de Sainte-Cène. Et on va regarder attentivement les versets qui suivent le passage qu'on lit les trois quarts des fois où on prend le repas du Seigneur. Alors ouvrez vos Bibles pour ceux qui les ont. Les autres, ne les laissez pas prendre la poussière sur vos étagères. Et on va aller dans 1 Corinthiens 12, verset 23. 1 Corinthiens 12, verset 23. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. On est ici à la table du Seigneur pour proclamer la mort de Jésus-Christ à la croix. Et pour nous réjouir de cette preuve d'amour où Dieu nous a pardonné cette dette qu'on ne pouvait pas rembourser afin que nous soyons en communion avec lui. Mais pour être en communion avec lui, on doit s'examiner sérieusement, nous dit l'Écriture. Et regarder si on n'a pas des racines d'amertume ou de rancune qui pourrait se mettre en travers de Dieu et nous. Plus d'hypocrisie. On ne trompe pas Dieu. Lui qui connaît la parole que l'on va dire alors qu'elle n'est même pas encore sur notre langue. Vous êtes d'accord qu'il est grave de se trouver coupable et tomber dans les mains de quelqu'un de puissant sur terre aujourd'hui? Ça pourrait être un roi, un président, peu importe. Mais tomber dans les mains de celui qui a créé l'univers et d'être coupable? Celui qui tient ses rois et ses présidents? Pardonnez et demandez à Dieu de vous enlever ce poison de l'amertume qui vous ronge et que l'esprit de pardon souffle sur nous. Que celui qui n'est pas en communion avec Dieu ne prenne pas ce jugement contre lui et qu'il laisse passer ce pain et ce vin. Personne ne vous regarde, c'est entre vous et Dieu. Rassurez-vous, je ne vais pas non plus vous mettre mal à l'aise et vous demander d'aller vous réconcilier avec votre frère avant qu'on puisse partager le repas du Seigneur. Si vous le faites, je ne vais pas vous empêcher, mais laissez simplement passer ce pain et ce vin, si vous êtes concerné par ça. Et ne laissez pas cette journée s'écouler sans avoir supplié Dieu à genoux de vous enlever cette amertume, car nul ne sait quand il reviendra. Et allez pardonner. Ressemblons à Dieu et faisons cet acte le plus divin qu'on puisse faire, et pardonnons. Philippe, est-ce que tu voudrais m'aider à partager la scène?
Voilà, on veut prier pour le pain qui symbolise le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as pardonné le premier. Merci parce qu'en toute chose, tu nous montres l'exemple. Merci parce que sans ton pardon, nous sommes coupés de toi. Merci parce que par ce pardon, tu restaures notre relation avec toi, avec Dieu le Père. Sois loué, Seigneur, pour ton amour, pour ton œuvre. Merci parce qu'elle est parfaite. Merci parce que tu désires aussi nous rendre comme toi. Merci pour cette scène que nous pouvons partager ensemble qui nous rappelle ce pardon, qui nous rappelle aussi de pardonner aux autres. Merci aussi parce que si nous ne pouvons pas par nous-mêmes pardonner aux autres, tu désires le faire par ton esprit qui nous habite. Tu désires te manifester comme cela au travers de nous. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen.
sauver.